conditions actuelles, 0 degré.
Une radio singulière, pas pire pantoute.
C'est Félix, 95.5 FM.
J'ai un fils enragé. Qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples et sa finance où il ne peut entrer, et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays.
Et oui, cette chanson de Félix Sottler, L'Alouette en colère, pas seulement de ce temps-là, les Alouettes qui sont en colère, il y a aussi beaucoup de gens qui le sont comme tels. Bienvenue à cette édition, deux semaines de logement, un droit. Et bien sûr, on va revenir aujourd'hui sur le budget provincial déposé mardi dernier, il y a deux jours, par le ministre Éric Girard et son gouvernement. Bien sûr, en studio avec nous, Pascal Florent. Salut Pascal.
Salut Alain.
Peut-être nous rappeler... ce que tu fais?
Oui, en fait, je suis co-coordinateur de Solidarité populaire Estrie, là, un organisme de défense collective des droits de la région. Dans le fond, c'est un regroupement là, multisectoriel d'organismes communautaires, syndicales, féministes, étudiants, de Solidarité internationale. On a comme objectif modeste là, de favoriser les luttes sociales et la justice sociale dans la région.
Et évidemment, l'écoute collective du budget est une tradition, même plus vieille quasiment que toi, là.
L'organisme est aussi vieux que moi, donc environ. Oui, donc à chaque année, on organise les écoutes collectives des budgets là, provinciaux et fédéraux. C'est vraiment une tradition à Solidarité populaire Estrie. C'est un événement qui est attendu à chaque année, là, autant par les membres, la population et les médias. Donc, ça nous fait plaisir de continuer cette tradition-là, même si cette année, je pense que peut-être que l'écoute fédérale, on va devoir la sauter.
Miami, il paraît qu'il y a des élections.
Yep, ouais.
On va en parler tout à l'heure, justement, et on va aller rejoindre justement Mario Mercier, des co-porte-parole de l'Association des locataires de Sherbrooke. Bonjour Mario.
Bonjour Alain.
Alors bien sûr, tu connais très bien notre invité Pascal Florent.
Oui, bien Pascal est permanent depuis un certain temps, mais moi j'étais permanent avant la naissance de Solidarité populaire Estrie. J'ai connu l'intersyndicale et populaire à l'époque, là,
effectivement.
Qui organisait certaines activités en commun. Et puis, je salue toujours le travail de Solidarité populaire Estrie. C'est important de pouvoir se coordonner puis d'organiser les luttes sur les questions sociales, la solidarité avec les luttes syndicales, populaires, étudiantes et féministes. C'est évite de travailler en silo, ça veut dire chacun chez soi, sans avoir une vision globale de ce qui se passe en région.
Alors, c'est fun, on a deux générations, là, effectivement. Puis je pense qu'on peut dire aussi, Pascal, que c'est une des rares régions où ce modèle-là continue sous forme de solidarité populaire Estrie.
Ben oui, il y a 30 ans, il y avait Solidarité populaire Québec qui était née, qui a fait des petits. Dans chaque région du Québec, il y a eu des solidarités populaires, Mauricie, Saguenay. Hein? Malheureusement, ils ont... Pour la plupart, tout était dissous. Il en reste trois au Québec, Saguenay, justement, Estrie et dans la région de Granby. Mais on est les derniers là, qui sont encore financés.
OK, donc le village gaulois.
C'est ça.
Puis justement, Mario, toi qui as connu l'époque de Jean Cartier et de Champlain, non, mais il reste...
Oui.
À ce moment-là, effectivement, le financement de groupe... était beaucoup plus difficile, et même partout aussi, là, ça a pris des années avant que les groupes soient financés. Tu as été aussi au niveau de la Chaudronnée, au niveau aussi de tout ce qui est itinérance, ça, il y a les financements, Bon, là, c'est pas encore merveilleux, là. On va en parler tout à l'heure, justement, de cette générosité si grande des nouveaux gouvernements. Mais il reste qu'à l'époque, là, c'était vraiment du bénévolat quasiment à temps plein.
Oui, oui c'est que à la naissance des groupes, les groupes n'auraient pas pu exister avec puis se payer une permanence. Les fonds permettaient juste d'avoir un local, un téléphone à peu près. Pour donner une idée, il y avait des organismes qui naissaient avec 3 000-4 000 de subventions. Après, on a passé autour de 6 000-7 000 quand il y avait la subvention gouvernementale et Centraide. Et Sherbrooke a perdu les subventions de Centraide, entre autres, sur un débat un peu bizarre où on disait que, entre autres, la charité puis les droits sociaux, ça allait pas ensemble, puis que avoir les groupes populaires était trop politique. Là.
Oh. On... et de faire, entre autres... ce qui avait été reproché, désobéissance civile, ben, être dans la rue, c'était, pour moi, Dieu voulait pas ça, là, je sais pas.
oui, puis j'étais, on parlait à Chaudrené à l'époque, on voulait faire plus d'intervention sociale, intervenir sur la question de la pauvreté. J'agardais la Chaudrené à l'époque, on était à la naissance de la table d'action contre l'appauvrissement. Donc, il y a des organismes régionaux à lesquels on était très intimement liés à leur naissance. Je les ai vus naître, je les ai vus grandir et j'espère les voir survivre à toutes les crises.
À travers les années. Alors, évidemment... mardi, on a vécu, ben, on a vécu ensemble évidemment cette écoute collective du budget. Avant de d'en parler de celui, on a toujours des attentes comme telles. On espère, on finit par en prendre un petit café puis des fois peut-être un verre de vin, dire on va peut-être voir
un miracle
arriver. Justement, on parlait tout à l'heure. Pascal, tes attentes étaient là. Il y avait des attentes que tu voyais?
Des attentes, aucune. des revendications, par exemple, plusieurs.
Oui, OK, parfait. Allons-y.
Oui, mais nous, à Solidarité populaire Estrie, c'est sûr qu'on a... C'est notre comité justice fiscale qui organise les écoutes collectives de budget. Puis quand on parle de justice fiscale, en fait, c'est de s'assurer que l'État réponde à son devoir de redistribution de la richesse. Donc, on souhaitait des mesures en ce sens. Donc, des impôts pour les plus riches pour qu'on puisse après ça redistribuer l'argent dans les programmes sociaux. C'est un peu l'inverse de ce que la CAQ fait depuis son mandat. C'est ce qu'il faut rappeler, puis on le martèle à chaque fois, c'est que depuis que la CAQ est arrivée, elle... prive l'État de 7 milliards de revenus par année par ses mesures fiscales, entre autres par la fameuse baisse d'impôts qu'il y a eu récemment. Dans un budget déficitaire, je vais pas trop me lancer là-dedans, mais ça aurait peut-être fait du bien, un 7 milliards de plus en revenus cette année. probablement. Donc oui, c'est ça, c'est nos mesures de revendication, les premières, là, s'assurer qu'il y a de la redistribution des richesses, ça passe par les impôts, palier d'imposition. On a aussi un comité de justice climatique, on voulait des mesures en ce sens. Le gouvernement nous revient avec son plan pour une économie verte. C'est ça son plan de justice climatique qu'il a créé en 2020. Donc, c'est complètement insuffisant là, pour le résumer là, grossièrement. Là. Si l'ensemble de l'humanité s'accorde sur ce plan-là, l'humanité ne survit pas. Donc, c'est insuffisant.
OK. Et Mario, je me doute un peu de la réponse. Je connais un petit peu l'association locataire, mais je présume que les attentes aussi étaient grande comme telle. Et toi aussi, peut-être, c'était plus des revendications que des attentes. Là.
Non. C'est que, effectivement, on est un peu déçus dans le sens qu'on s'attendait pas à un tel désert de mesures. On s'est habitué, là, maintenant, 2 ans, on a vu la couleur de la CAQ, les gens ont oublié que c'était un parti très à droite. Et entre autres, on l'a vu au moment où ils se sont privés de 4 milliards de sous et on voyait on sentait déjà une décroissance de tout ce qui était social. Et là, ben, on sent que face aux tarifs qui est la discussion importante, on tente de faire diminuer au minimum tout ce qui est dépenses. Dépenses sociales, mais dépenses pour l'éducation, la santé. Puis, ça a voulu dire pour le logement, zéro somme nouvelle. Et on a vu le premier chiffre qui est apparu, 302 millions, mais c'était des sommes déjà engagées. Et pas vouloir dire que 200 millions, c'est toujours des gros chiffres, hein, mais essayer de placer ça à l'échelle du Québec, là, c'est des sommes complètement dérisoires.
Et sur 5 ans.
Et comme il n'y a pas de nouvelles sommes qui apparaît, c'est comme si le Québec attendait que le gouvernement fédéral fasse tout l'apport financier pour pouvoir avoir un fonctionnement au Québec. Et ça, on dirait que on se retrouve avec une situation où les villes qui ont très peu de budget fournissent beaucoup plus d'argent, ont beaucoup plus de budget que le gouvernement provincial. Entre autres, dans la dernière année, la ville de Sherbrooke a débloqué 8 millions pour développer du logement social. Fait que 8 millions par rapport à 302 millions pour le Québec, je vous fais le nombre de municipalités, les budgets municipaux, les besoins qui sont criants partout, ben on se rend bien compte que tous ces projets-là ne seront pas... Ça fait que nous, qui sommes... projet de socialiser l'ensemble du parc locatif privé. On y trouve rien pour nous réjouir et aussi même notre objectif de doubler le nombre de logements sociaux. Ben, il y a aucun argent qui peut nous permettre de penser qu'on s'en va dans cette direction-là. Là. Si on est... On est plus que déçus. On trouve qu'on est, c'est comme si la moitié ou même peut-être 60% de la population avait disparu des préoccupations du gouvernement du Québec. On se sent complètement absent. Et à Sherbrooke, c'est plus qu'une personne sur deux qui est locataire.
Mm-hmm. Pascal, t'es heureux de ce budget-là. Tu vois dans ta figure le sourire, hein?
La seule chose qui me rend un peu heureux, c'est que probablement que ce budget-là est déjà rendu désuet avec les planifications du ministre Girard, avec l'annonce là, des 25% des tarifs sur l'automobile. Non, mais c'est ça, c'est un budget, tu sais, tout le monde s'entendait, là, j'écoutais plusieurs plateformes de discussion là-dessus, que c'est un budget qui allait pas survivre potentiellement à la semaine, puis on le voit, tu sais, c'était sur des projections très, très, très optimistes dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Puis on se rend compte que il fallait peut-être pas nécessairement être optimiste. Puis ce qui était un peu choquant pour nous, quand on en discutait un peu, c'est qu'ils ont passé le fait qu'il y avait une crise qui s'en venait, une potentielle crise qui s'en venait pour justifier un budget déficitaire. Ça reste que dans les dernières années... Je pense que si on sort un petit peu dehors puis on lit les journaux, il en existe des crises qui sont belles et bien réelles au Québec. La crise du logement, comme Mario venait de parler, la crise climatique, la crise des droits sociaux, la crise de la pauvreté, ce sont toutes des crises qui sont réelles, qui s'aggravent d'année en année. Je lisais un article récemment qui disait qu'aux États-Unis, l'écart entre les riches et les pauvres est aussi grand, voire plus grand que lors de la Révolution française. On sait ce qui s'est passé en Révolution française.
Ouais.
On ne souhaite pas nécessairement ça, mais peut-être.
Mais il reste quand même, c'est alarmant.
C'est ça, c'est très alarmant. C'est des crises bien réelles. Puis c'est un silence radio de la part du gouverneur de la CAQ pour régler ces crises-là. Mais là, une potentielle crise qui va peut-être toucher leur portefeuille, les investisseurs, ça nécessite un budget déficitaire qu'on ne pense pas réellement qu'il va nécessairement avoir un impact sur la crise qui s'en vient. Mais... on se rend compte que protéger la population pour la CAQ, c'est pas une priorité.
Et justement ce matin, tu voulais continuer là-dessus, Mario?
Oui, c'est ce que je regardais. C'est comme si Par exemple, s'il y a des fermetures d'usines, il va y avoir une augmentation du chômage et parallèlement une augmentation de la pauvreté. Il va y avoir probablement une augmentation du nombre d'assistés sociales. Et on prévoit, entre autres, diminuer les budgets à l'aide sociale. Il y avait un intervenant hier qui disait « Nous, on reçoit à peu près la moitié des gens qui nous appellent pour avoir de l'aide, la moitié nous parle de suicide. Donc, il y a comme une insensibilité aux crises sociales, aux difficultés des gens. En logement, le drame, c'est que les gens qui sont en situation de pouvoir, les propriétaires vont directement piger dans les poches des locataires. Il y aura l'argent qu'ils ont besoin pour manger. De là, l'affluence aux soupes populaires puis aux banques alimentaires. Il leur ôte la possibilité de bien vêtir leurs enfants. Il leur ôte finalement le lait maternel pour donner pour nourrir toutes ces réalités là, toutes ces choses là. C'est une crise qui a pas l'air à toucher le gouvernement, que les propriétaires aient la main dans les poches de leurs locataires, puis ils retirent l'argent avant même qu'il puisse être dépensé. Ça fait mal à personne au gouvernement. On sent une insensibilité. Et la ministre qui est notre répondante a réussi à dire que tout est en contrôle au Québec alors qu'elle n'avait aucune somme à déclarer pour le logement social. C'est le summum de cette incompréhension et cette distance que le gouvernement par rapport à l'ensemble de la population.
Et justement, Pascal, tu vois sûrement ça aussi, cette insensibilité, même chez les groupes aussi membres de SPA.
Oui, ben juste avant, Mario, il l'avait très, très bien expliqué au budget, tout comme Véronique Laflamme après. C'est une gouvernement de la CAQ qui misait sur l'économie alors que si tu investis dans le logement social au Québec, ça allait stimuler des emplois, ça allait stimuler l'économie, puis ça allait vraiment s'assurer qu'il allait avoir de la main-d'œuvre au Québec. Et on est vraiment passé à côté d'un bateau, là, vraiment, vraiment. Je vous invite à... Ben, si Mario, il veut renchérir là-dessus, mais sinon, écoutez les entrevues de Véronique Laflamme du Frappru là-dessus, c'est vraiment très, très, très pertinent.
Il y a le communiqué du Frappru, d'ailleurs, qui est aussi sur la page Facebook du Frappru. Donc, et il y a aussi l'entrevue que Véronique a accordée, entre autres, à TVA. Ils ont été faits avec elle, ce fois-là.
Oui.
Oui, chez nous, TVA n'a pas fait un gros reportage. Il a interviewé M. Palotta, qui donne beaucoup d'informations sur la vie puis les choses, mais si on se fie à TVA, si les gens ne meurent pas dans la rue... Si il ne meurt pas de froid, on les retrouve pas gelés ou finalement tout est en contrôle. TVA a une façon particulière d'appréhender les problèmes sociaux. C'est aussi, selon moi, qui fait partie un peu de ce débat-là. Il y a des gens qui, aussitôt que les questions politiques se posent ou qu'on pose des vrais problèmes, des vrais débats, ils se sauvent. Ils veulent pas parler de politique, ils veulent pas parler de situations concrètes. Tout est stérilisé. Et les pauvres ne trouvent pas leur place dans leur discours et dans l'analyse.
Alors, ça ressemble beaucoup à la CAQ. Puis justement, dans les membres de SPE, Pascal, il y a beaucoup d'inquiétudes aussi qui a été reflétée mardi, c'est clair. Là.
Oui, on avait au-dessus, je crois qu'on avait 15 groupes intervenants au budget. Sur les 15, il n'y a aucun groupe qui, je pense que tout le monde s'attendait à un budget insensible. Il n'y avait aucune personne qui était satisfaite là, du budget lors de l'écoute collective du budget. Encore une fois, les groupes féministes, le mot d'ordre revient que la CAQ ne semble pas aimer les femmes. Il n'y a pas d'investissement dans ce sens-là. Pour les groupes de la table d'action contre l'appauvrissement d'Estrie, encore une fois, aucune mesure pour aider les gens à sortir de la pauvreté. On maintient en fait des mesures pour les maintenir dans la pauvreté. Aucune mesure d'égalité sociale. Même des crédits d'impôt pour aider les gens qui essaient de sortir, finalement, on les enlève. Tout comme Sylvie de la CFSTRIE le disait. Même chose pour les CPE. Complètement insuffisant. L'argent, je pense qu'on libère quoi? C'était 1 000 $ sur 1 000 places sur 5 ans, quelque chose comme ça.
Ah oui.
Complètement insatisfaisant. Droit des travailleurs, travailleuses, non seulement il y avait des inquiétudes là, mais en plus, l'inquiétude est rajoutée sur la loi possible pour briser les mouvements de grève. C'est ça. Je pense que Mario l'a très bien dit. Les gens se font rappeler encore une fois que la CAQ est un gouvernement de droite qui dirige à droite. Le bien commun n'est pas leur priorité. Les investisseurs passent avant. Leur propre intérêt passe avant, puis c'est un budget qui laisse ça transparaître.
Avant d'aller à la pause musicale et pause publicitaire, il y avait aussi un représentant de l'AEX. Ça touche autant le logement que tout ce qui va. Et justement, qu'Ariane Pépin montrait bien la détresse des étudiants et étudiantes, entre autres, par les coupures en éducation au cégep, mais aussi, Mario, on parce que j'ai passé quelques années là, l'association Cataire et le logement étudiant. Rapidement, les deux, avant d'aller à la pause, nous parler de cette précarité là, étudiante.
Bien, pour l'association étudiante du cégep de Sherbrooke, c'était clair que c'était le nerf de la guerre. S'il n'y a pas d'investissement en logement pour le logement étudiant, pour les résidences, les étudiants étudiantes, c'est un frein à l'éducation au Québec. C'est un frein important. Est-ce qu'on veut une société instruite? Est-ce qu'on veut une société où est-ce qu'il y a une égalité des chances, où est-ce que toutes les personnes peuvent accéder à l'éducation supérieure? Ben la réponse de la CAQ hier, c'était non. Seulement les mieux nantis vont pouvoir y accéder, ou les personnes qui vivent chez leurs parents proches d'un établissement scolaire, parce que le logement, vraiment, c'est inaccessible en ce moment.
Et dernièrement, Mario, d'ailleurs, tu es allé rencontrer, je pense, des étudiants et étudiantes en maîtrise?
Oui, il était très intéressé à connaître les lois. Finalement, il y avait 70 personnes, une dizaine en présence, la majorité. Mais il était très, très intéressé parce que même à leur échelle, ils visent une crise du logement très importante. Puis ils sont pas toujours en résidence. Ils ont pas toujours accès à du logement. Il y a entre autres le REMDUS à travailler, a sorti 500 000 pour pouvoir construire l'édifice sur la rue Pacifique directement des cotisations étudiantes, parce que c'est pour eux un problème très, très important que les étudiants, s'ils veulent pouvoir étudier, puissent avoir un endroit pour rester.
Alors, on va aller, à moins que tous les deux, vous voudriez faire un petit duo en chanson. On va vous proposer une chanson dans les manifestations, il y a quelques années, là, avec Jérôme Fortin, Régénération, là, député, on est tanné. Je pense qu'aujourd'hui, ça, on peut encore leur chanter. Pause, et on vient pour la deuxième demi-heure de l'émission Logement un droit, avec nos invités, bien sûr, Pascal Florent, de Solidarité populaire Estrie, et Mario Mercier, de l'Association locataire de Sherbrooke.
De répéter les mêmes affaires. Quand vient le temps de parler de la pauvreté pis de la misère, vous autres, vous pensez qu'il n'y a pas grand chose à faire, pis que de toute façon il y a les banques alimentaires. Et puis nous, citoyens, on propose les pas à faire pour contrer la pauvreté à travers tout le territoire. Nous, de notre côté, on s'occupe de nos affaires. Aujourd'hui, on vous le dit, c'est à votre tour de faire vos devoirs. Quand on regarde la société, ça fait dur, c'est effrayant.
Le système de santé nous apprend à être patient. Puis l'éducation est rendue chère en sacrement. Un couplet, c'est pas assez pour dire comment c'est épeurant. Pas facile de se déplacer, les transports sont trop chers. Hein. Il fait fret au Québec, mais l'hydro remonte tout le temps. La moitié de mon revenu sert à payer mon logement. Les CPE sont bondés, y'a même plus de place pour nos enfants. Et puis nous, citoyens, on propose les pas à faire pour contrer la pauvreté à travers tout le territoire. Nous, de notre côté, on s'occupe de nos affaires. Aujourd'hui, on vous le dit, ça va tout faire vos devoirs. Vous nous dites d'être motivés, que le travail c'est extraordinaire. Juste des chiffres coupés de fin de semaine et puis de soir. Juste une job, c'est pas assez pour remplir son frigidaire. C'est impossible d'arriver quand t'es payé à bas salaire. Les personnes à l'aide sociale sont écœurées des préjugés. C'est pas juste avec une job que tu peux contribuer. Les pensions alimentaires, faut arrêter de les détourner. Assurer la dignité, c'est bon pour toute la société. Députés, venez voir comment on est solidaires. Vous pourrez pas continuer de faire comme si c'était secondaire. On veut plus de justice, plus question de se faire avoir. Faites-vous valider nos droits, on va les faire valoir. Et puis nous, citoyens, on propose les pas à faire pour contrer la pauvreté à travers tout le territoire. Nous, de notre côté, on s'occupe de nos affaires. Aujourd'hui, on vous le dit, c'est à votre tour de faire vos devoirs.
Il est midi.
27 minutes.
En pleine crise économique, vous voulez Mark Carney de votre côté. En tant que gouverneur de la Banque du Canada, il nous a guidés à travers la crise financière mondiale de 2008. Il a dirigé la Banque d'Angleterre pendant la crise du Brexit. Et aujourd'hui, il est prêt à tenir tête à Donald Trump et ses tarifs. Les Canadiens sont prêts pour du changement. Mark Carney a le plan pour réduire l'impôt de la classe moyenne, créer des emplois et bâtir l'économie à la croissance la plus rapide du G7. Avec Mark Carney, nous gardons le Canada fort.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
Du 7 au 13 avril, vivez la 12e édition du Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. À l'affiche, 80 films et 25 événements dans 8 lieux à travers la ville. Drame, comédie, suspense, films d'animation, du cinéma d'ici et de 45 pays. Sans oublier les échanges avec les cinéastes à la Maison du cinéma, le ciné-concert au Théâtre Granada et les activités gratuites au Marché de la gare. Programmation au fcms.ca.
Queue de Castor Magog est situé en plein cœur du centre-ville de Magog. Tout près du vieux clocher, Queue de Castor vous offre des queues de castor de différentes saveurs, poutines de différentes variétés, chocolat chaud, crème glacée pour les temps sucrés et bouchées succulentes pour vos 5 à 7, livraison rapide partout en Estrie. Commande au 819-869-1213 ou au beavertails.com. Queue de Castor Magog, 50 rue Mary Nord, Magog.
C'est pas pire, pas tout. La radio de CFLX en Estrie.
95.5 FM.
Si la radio est pas pire, pas tout, le budget, lui, il est pire que tout. On revient avec Mario, toujours avec nous.
Oui.
et bien sûr Pascal aussi. Donc, c'est pas la même annonce. On peut pas dire que le budget il est pas pire pantoute. Il est pire quasiment que tout, du moins l'administration. On parle justement de l'administration Legault depuis déjà six ans qu'il est là.
Six, sept.
Ça paraît long. On dirait que ça fait 25 ans qu'il est là. Là. Mais il reste que les politiques comme telles, là, c'est pas loin d'être un désastre.
Oui, c'est que eux ont pas les mêmes critères que nous. Les priorités sont pas les mêmes. Nous, on a des gens à défendre, on a des personnes et on voit des communautés. Il existe au Québec pour eux qu'une seule communauté, c'est la communauté d'affaires. Là, ce qu'ils voient, c'est que mon analyse de ce budget-là, c'est qu'ils risquent d'avoir besoin de beaucoup d'argent pour soutenir les entreprises québécoises. Et comme c'est une priorité pour le gouvernement, finalement, toutes les autres dépenses doivent être diminuées, doivent s'écarter dans le projet de fournir des sous. Ce que je vois, un peu comme disait Pascal, ça se peut même que le déficit soit beaucoup plus grand, le gouvernement a prévu 2 milliards, a prévu des fonds pour aller dans le fonds des générations. En fait, le véritable déficit est autour de 11,4 milliards. Si besoin est, le gouvernement va se permettre d'aller et d'investir et défoncer le déficit pour débloquer des sommes pour l'entreprise, en oubliant qu'il y a des travailleurs qui travaillent dans ces entreprises, il y a des gestes sociaux, il y a des femmes, on a besoin de garderies, on a besoin de logements, tous les besoins sociaux sont mis sur la paille dans le seul objectif de s'assurer d'avoir des sommes suffisantes pour soutenir le milieu des affaires.
Ouais, puis l'argent, il n'ira pas la chercher dans les poches des grandes entreprises, des GAFA, même si ça, il peut plus ou moins, là, mais des ultra-riches. Là. On s'entend, il va couper dans les programmes sociaux. On le voit déjà depuis le début de l'année, il faut qu'il avait annoncé, je me rappelle pas c'est quoi le montant, là, il fallait couper, je pense que c'était quoi, 200 millions en santé, le montant m'échappe, là. 2 milliards en tout cas. Ça va être les programmes sociaux du Québec, oui, dans la prochaine année, jusqu'aux prochaines élections. Ça va être difficile, il va y avoir des coupes, ça va être des mesures d'austérité, même si... Il fait un devoir historique de ne pas prononcer le terme parce qu'il sait que ça n'a pas bonne presse, là, mais ouais, on s'entend que c'est des mesures d'austérité qui s'en viennent.
C'est rattaché à un certain gouvernement. Et le plus drôle, un des pères de l'austérité, M. Létao, devient conseiller au Parti libéral du Canada. Ça me rassure pas, moi.
C'est la même chose.
Je pense que pour les groupes communautaires, ça pose la question que posait Henri de la Fédération des communautés culturelles, qui dit on pourrait se mettre à pleurer à regarder à quel point c'est triste l'histoire. La question qui nous reste à nous poser comme groupe communautaire, c'est de quelle façon on réagit par rapport à ces coupures-là. Donc, c'est quoi nos perspectives? Je pense que la première que je vois, moi, c'est pour ne pas pleurer, justement, c'est de s'organiser pour défendre nos membres. C'est travailler en commun. Entre autres, les syndicats vont connaître, il y a une loi antisyndicale, ouais, pour casser les mouvements de grève s'ils s'allongent, il va falloir de la solidarité. Il va y avoir des batailles pour la dignité des assistés sociaux. Il va y avoir d'autres. Il va y avoir des luttes pour notre survie climatique. Il va y avoir... donc, il y a un travail. Le premier travail, je pense, c'est d'être solidaire puis pas travailler chacun seulement chez soi. chez soi parce que des fois des choses à régler. Puis je pense que le travail collectif des groupes, puis il faut aussi, je pense, politiser ces débats-là. Il y a des choix qui sont faits. C'est pas un tableau comptable seulement la présentation d'un budget. On dit que ce budget-là pour un Québec fort, mais on voit que dans un Québec fort, on oublie tellement de gens dans la société que je pense que c'est très élitiste, c'est très accourvu. Mm-hmm. Puis il faut politiser nos choses pour dire qu'il y a des choix qui sont faits.
Et justement, Dominique Vigneux, parent, le soulignait, le financement des groupes aussi au niveau de l'immigration, Pascal, il y a encore plein de dossiers là qui sont là qu'il faut se battre pour, là.
Ouais, ben je pense que Mario l'a si bien dit, tu sais, on pourrait se tomber dans un marasme social, puis tu sais que ça va pas bien, que ça va mal, puis ça prend du temps, tu sais, être sur la défensive tout le temps, ça prend du temps survivre, ça prend du temps essayer de justement sortir la tête de l'eau, mais va falloir trouver une stratégie pour se donner du temps pour lutter tous ensemble. Pour justement avoir un Québec fort, un vrai, là, pas celui de la CAQ. Là.
Oui, mais ce mot-là revient beaucoup, là, Canada fort, America, best America. Bon, mais on dirait que le mot fort, là, on n'a peut-être pas la même définition de la force, hein, Pascal.
Oui, ben c'est ça. J'regardais M. Legault puis M. Girard là, avec Québec, un Québec fort le même. Là, je m'attendais de voir leur chemise déchirée, là, style Hulk Hogan. Et il y a une petite partie de la problématique et de la façon de voir de Trump. On veut pas des tarifs, mais on importe certaines lubies, entre autres vouloir diminuer l'immigration temporaire, alors que c'est eux qui aident à l'économie, vouloir trouver des boucs émissaires, séparer les gens selon leur classe, selon leur gens. Il y a des gens qui c'est correct, qui s'enrichissent, puis on doit protéger, mais les milieux de vie sont pas respectés. Il y a comme un discours trumpiste qui s'installe. Moi, j'aimerais qu'on lutte contre les tarifs, qu'on regarde à ce que la population puisse survivre en bonne santé à ces attaques, mais j'aimerais qu'on laisse certains propos très à droite au-delà de la frontière, qu'on laisse les trumpistes, les masculinistes, qu'on laisse les gens qui croient pas au vaccin, qu'on arrête de faire la lutte à la science, la lutte, qu'on laisse toutes ces choses-là, le côté de la frontière, et que on pense société, qu'on pense que tout le monde a droit à un minimum pour pouvoir vivre dans la dignité, puis qu'on leur donne ce minimum-là.
Il y a beaucoup de travail, Pascal, hein? Tombons pas au chômage demain matin, toi?
ça dépend toujours du financement.
Oui, bien, effectivement, on peut en parler du financement. C'est ça que toujours le nerf de la guerre. D'être toujours, parce que je sais, moi, puis Mario peut en parler autant comme tel, puis les groupes comme Solidarité Popularistrie, puis Dominique en a parlé aussi. Tu sais, quand ils disent « on va vous augmenter », oui, mais ça veut dire quoi, c'est augmenter pour le gouvernement? C'est pas la même vision, Pascal, que nous, on a d'augmenter.
Augmenter, je pense qu'il y a eu un peu d'argent là, pour les groupes en santé et services sociaux. Vraiment pas à la hauteur de ce qui était demandé ou de ce qui est en fait qui est ressenti sur le terrain. Il y a eu un peu d'argent, par exemple, il faut quand même le souligner. Là, par exemple, les organismes en défense collective des droits. Ouais. Eux, ben c'est zéro. Même pas l'indexation, rien. Donc, en ce moment, les organismes qui ont comme objectif de défendre les droits des personnes, eh bien, ils perdent du terrain.
Excellent. Oui.
C'est que le gouvernement voudrait, entre autres, que les groupes communautaire sous-traite les problèmes sociaux que le gouvernement s'occupe à moitié ou pas du tout dans certains cas, que on soit là pour donc il prévoit certaines sommes pour permettre en itinérance de soutenir les organismes ou d'offrir des services. J'agardais en ce qui nous concerne, on avait une subvention secteur pour les groupes logements. Il paraît qu'on va avoir 25 000 par groupe qui devrait nous venir du PASOC, nous aussi. Moi, je pense que c'est important, entre autres, même si on n'est plus dans la situation telle que la naissance des groupes, les groupes en général sont vraiment sous-financés. Oui. Mais si un jour on était ultra-financés, puis que les gens à qui on soutient seraient dans la misère, on serait pas dans un milieu comme je dirais favorable. Par exemple, si on permet, on sort des sous importants pour les banques alimentaires, je m'en réjouis. J'aimerais bien mieux, j'aimerais que les gens puissent avoir la dignité puis la capacité de vivre dans un milieu qui leur permette de subvenir à leurs besoins. Finalement, les programmes ont tendance à pallier des manques sans régler aucun problème à la source. Si le gouvernement n'a pas cette conception-là, ils nous disent qu'on est radical. Puis moi, je pense que c'est une qualité d'aller aux racines des problèmes pour tenter de régler ces problèmes-là. Ils ne veulent régler aucun problème social. Ils veulent s'assurer que la société fonctionne. Néanmoins, même s'il y a de l'itinérance, même si les gens ont pas d'argent pour payer leur loyer, vivent dans l'angoisse, se privent de nourriture, ont pas de vêtements adéquats pour permettre ou des livres pour permettre aux étudiants d'étudier, c'est pour eux tous ces problèmes-là n'existent pas. Puis ils considèrent pas les gens comme des humains à part entière. Il y aurait des gens pour qui ça vaut la peine d'avoir de l'intervention publique, de soutenir leur profit. Mm-hmm. Puis il y a d'autres personnes qui ont pas le soutien de l'État. C'est comme si il y avait deux types de citoyens au Québec. Ouais. Il y a des citoyens corporatifs qui sont importants, puis il y a les autres à qui on peut nier leurs droits.
Je pense que c'est...
Vite, sur le financement encore, juste souligner, il y a quelque chose de dangereux puis d'inquiétant dans tout ce manque de financement-là puis dans toute cette conjoncture politique-là, parce que les mesures d'austérité qui s'en viennent, qui vont couper dans les services publics, ça veut pas dire qu'il va avoir moins de besoins. Les besoins, avec l'inflation, le coût de la vie, la conjoncture sociale, ils vont augmenter les besoins sociaux au Québec. Si on fait des mesures d'austérité, qu'on coupe dans les programmes sociaux, le filet social au Québec, ben c'est le milieu communautaire. Puis si le milieu communautaire reçoit pas son financement, comme en ce moment le budget l'a démontré, est sous-financé, tout, on va appeler ça les besoins qui sont pris en charge par les programmes sociaux, vont aller migrer vers les services du filet social, du communautaire. Les personnes sur le terrain vont être complètement débordées. Les organismes de défense collective des droits vont être surchargés. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement inquiétant qui se profile à l'horizon. Puis il va vraiment falloir, comme Mario l'a dit, là, pas tomber dans un marasme social. Il va falloir se tenir les coudes puis vraiment réussir à créer un mouvement social pour dire que là, ça suffit. Les programmes... Qui favorise tout le temps les mêmes, qui favorise les riches. On veut des programmes de justice sociale, de justice fiscale, de justice climatique. Vraiment, entamer une vraie transition sociale au Québec, je pense que ça va être une question de survie dans les prochaines années. Puis on va avoir des conjonctures politiques pour le faire. Il va falloir les saisir.
Rapidement, il y a le document que vous avez produit mardi soir. Est-ce qu'il est disponible là, sur la page de Solidarité Populaire Estrie, analyse et réflexion à partager?
Je peux aller voir sur notre site Internet. S'il ne l'a pas, je vais le mettre cet après-midi.
Parce qu'il y a vraiment, moi, j'ai trouvé... On va aller rapidement sur deux petits sujets, parce qu'elle passe vite avec des... il paraît qu'il y a des élections fédérales qui s'en viennent. On est dedans. Bon, rapidement... votre vision de ce qui peut s'en venir, Pascal?
Rapidement, je trouve ça désolant qu'encore une fois, on a besoin d'entamer des transitions sociales et climatiques à l'échelle de la planète. Et par un coup politique, on se ramasse entre les deux seules avenues là, possibles qu'on se fait présenter dans les sondages. C'est le populisme ou un conservateur.
Ouais.
C'est rendu que le Parti conservateur, c'est le populiste, c'est dans toute l'idéologie de faut être contre les personnes trans, contre l'avortement, contre, dans le fond, toutes les personnes avec des identités. Et d'un côté, le Parti libéral qui fait, nous, si on veut avoir des chances de gagner, on va engager un banquier qui fait l'évasion fiscale, puis qui a des politiques de droite. Économique comme les conservateurs.
Et qui ne connaît pas le Québec, pas en tout, là. Okay.
Non. Donc, je trouve ça extrêmement désolant, puis j'espère un grand mouvement social qui va entamer dans les prochains jours, prochaines semaines, pour dire que nous, ce qu'on a besoin, c'est une transition sociale, environnementale, de justice climatique. J'espère qu'il va y avoir quelque chose. Puis nous, à Solidarité Populaire Estrie, on va justement suivre cette campagne électorale-là. On va avoir des manifestations, on va avoir des événements politiques pour justement essayer de faire ressortir la voix populaire. Parce qu'à un moment donné, la voix des politiciens et politiciennes, c'est tout le temps la même.
Ouais.
On le sait, c'est quoi qu'ils vont dire. Mais il y a des besoins sur le terrain, puis les gens, c'est des experts de leur vécu. Puis ça, on va essayer de faire ressortir leur voix.
Mario?
Ce qu'on voit sur le terrain... Poiliev nous dit que le logement a doublé. Il paraît que les chiffres ne retrouvent pas tout à fait ça, mais il y a beaucoup effectivement augmenté du temps des libéraux. Les libéraux dépensaient, entre autres, à partir de la stratégie canadienne du logement, énormément d'argent qui allait pas au bon endroit, qui permettait à la propriété privée de construire des logements qui supposément abordables mais qui l'étaient pas, dans des conditions qui faisaient finalement que le logement qui s'adressait aux gens les plus pauvres, qui réglait des véritables problèmes, c'était qu'une minuscule partie de cet investissement-là. Si je regarde ce qu'on nous propose pour le Parti conservateur, on dit on va construire des maisons.
Oui.
Moi, je comprends bien, là. On va construire des maisons, on va avoir des échappatoires fiscales sur la TPS, puis on va axer sur l'accès à la propriété. Puis on va construire beaucoup, beaucoup de maisons. En réalité, si je regarde le programme du Parti libéral puis du Parti conservateur, ils sont sensiblement sur les mêmes choses maintenant.
Ah oui.
Puis construire des maisons, l'accès à la propriété, ça règle pas un problème social. Ça règle des problèmes de logement de gens qui n'ont pas de problème de logement.
C'est ça.
Moi, que savoir... quand j'écoute la TVA, là, de savoir s'il y a des coopératives de propriétaires puis que des gens pourraient accumuler un capital à partir de leur logement. Ils contrôlent pas le sol, ils ont de l'usufruit, puis c'est hors marché pareil. Toutes ces histoires-là qui noient le poisson, j'en ai rien. Napoutre, et je pense que ça voudra rien dire dans la vie de tous les gens qui vivent une crise du logement. Finalement, on finit par avoir des programmes qui n'ont pas d'effet sur le milieu. Et malheureusement, les deux candidats principaux nous apportent vers ce terrain-là. J'ai regardé le NPD qui parle de 100 000 logements au travers le Québec. C'est une revendication à laquelle on s'était entendu tous les comités logements d'un océan à l'autre. C'est très bien, mais encore, ils nous parlent de hors-marché plutôt que de parler de logement social. Puis le NPD, il en parle pendant la campagne électorale, mais c'est difficile de croire qu'ils ont des objectifs quand ils n'en ont pas parlé pendant 4 ans. D'accord, moi, c'est important les dents, c'est important les soins dentaires, mais si je suis dans la rue, mes soins dentaires vont être un petit peu accessoires. Tu sais, je trouve que d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, on fait pas de politique, on s'occupe pas des gens plus démunis. Puis ça me fait peur.
Alors, on va regarder, évidemment, nos prochaines émissions vont porter beaucoup là-dessus. Rapidement, Pascal, on parlait d'environnement, il y a une tradition, le 22 avril, Solidarité populaire Estrie, bien sûr, invite déjà les gens, il va y avoir quelque chose qui va se passer le 22 avril.
Ouais, ben ça tombe bien que tu m'en parles, Alain. Hier, Justice climatique Estrie, on avait notre rencontre d'organisation pour le Jour de la Terre le 22 avril. On a décidé d'organiser une manifestation le soir à 5 heures au parc Jacques Cartier. L'événement vient d'être créé sur les réseaux sociaux. On va le faire diffuser dans les prochains jours. On est encore on a encore quelques modalités d'organisation à finaliser, mais on le sait qu'il va y avoir une manifestation le 22 avril à 5 heures au parc Jacques Cartier. Puis il va probablement avoir là un set à tort à quelque part à Sherbrooke pour une petite conférence, puis si les gens veulent faire un échange militant, là, on va s'assurer qu'il y a un lieu pour ça. Donc oui, ça va être un rendez-vous.
Et justement, mardi prochain, c'est avec Rock Estrie, d'autres organismes aussi. C'est pas un poisson, là, le 1er avril, c'est justement Magnifique réforme de la santé, hein? Et ça se passe mardi. À Place Caldiwi.
Oui, je l'ai vu passer. Honnêtement, je suis de retour de congé paternité. J'ai pas repris tous les dossiers, mais oui, je sais qu'il y avait de quoi à Place Caldiwi, mais je peux pas en parler plus. Désolé.
Alors, c'est sur les différentes... sur Facebook, que je le mettrai aussi sur différentes pages. Et Mario aussi, bien sûr, l'élection fédérale, autant... Il y a sûrement des actions qui vont être faites, autant à Solidarité populaire Estrie qu'à l'association, pour interpeller les candidats et candidates?
Oui, entre autres, il y a un débat inversé qui se prépare avec Solidarité populaire Estrie. L'association des locataires veut y participer. On va suivre l'actualité. Ça se peut qu'on fasse des actions non planifiées, comme des actions teinte à mort, possiblement. Il y a aussi l'actualité qui continue, entre autres le 17 avril à 1h30 au parc Jacques Cartier dans le chalet Armand Nadeau. De 1h30 à 15h, il y a une rencontre sur la marchandisation du logement avec un économiste d'Iris. Puis il y a d'autres activités qui continuent pour l'association des locataires. Entre autres, on invite tous les gens qui, surtout s'il y a des problèmes d'expulsion bizarre ou des propositions, des actions intempestives de leurs propriétaires pour les expulser, de nous contacter. On fait un travail collectif. Ça fait que si on peut rencontrer des gens de votre bloc appartement en groupe, n'hésitez pas. C'est la situation des locataires est là pour ça.
Et Solidarité populaire Estrie, évidemment, va aussi avoir des actions sûrement durant les élections. On peut vous suivre assez facilement. Puis il y a toujours aussi le micro ouvert pour ça aussi, ici.
Oui, bien ça, on a plusieurs actions de prévues, entre autres, comme Mario a dit, le fameux débat inversé, là, que l'objectif...
Expliquer à un vieux comme moi, là, c'est quoi un débat inversé?
C'est ça, l'objectif, en fait, ça va être... au lieu que ce soit les candidats candidates qui débattent devant une salle puis qui nous
bourrent
de leur cassette là, un peu vide de sens.
On vous aime tellement, vous faites un beau travail.
C'est ça. L'objectif, ça va être d'avoir des personnes, des organismes experts, là, de comme, mettons, l'association des locataires qui pourrait parler de logement, ou des organismes qui vont parler de pauvreté, des organismes qui vont parler de famille. Et ça va être eux qui sont sur le terrain, qui vont parler de leur vécu, parler de leurs revendications. Puis les questions, ben, ça va devoir être les candidats, candidates qui vont devoir les poser. Donc, ils vont devoir écouter. Ça va être un travail très...
J'aime ça.
Un bon travail de leur part, de devoir écouter les personnes et poser des questions pertinentes pour surenchérir la discussion et les débats.
J'aime ça.
Et ensuite, la population va être amenée à y assister et aussi poser des questions, intervenir, interagir.
Super.
Et se faire un peu une idée sur c'est quoi qui se passe dans les enjeux sociaux en Estrie.
Ben, ça, c'est intéressant. Fait qu'on va suivre ça, évidemment. Il y a beaucoup de choses.
Ça va être le 12 avril, en passant.
Le 12 avril, ouais. Ça va être en soirée ou...
Il faut que je regarde la location de la salle encore. Je sais que ça a été confirmé, mais j'ai pas vu l'heure.
Bon, ben on va suivre ça, évidemment. Ben, Pascal et Mario, merci infiniment.
Ça nous a fait plaisir.
On pourra faire une demi-journée sur tout ce qui se passe de mauvais dans notre société. Fait qu'on on va vous réinviter, soyez sûrs. Merci à vous deux. Puis on va justement se joindre aux cow-boys fringants. Le Québec pleure, l'Amérique pleure, comme tel, de cette grande chanson qui est malheureusement d'actualité. Et on se retrouve, nous, dans deux semaines pour l'émission Logement, un droit. Merci beaucoup à vous, mes deux invités. Et on rappelle que l'émission aussi, dès demain, sera rediffusée sur le balado de CFLX.
Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil, j'tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine. Yeah. J'prends le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon manie. Non, trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétro. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens?
Il est midi.
58 minutes.
Savez-vous qui aide nos enfants dans les écoles au quotidien? Les apparitrices et appariteurs. Ces personnes assistent les élèves en mettant à leur disposition le matériel nécessaire pour la réalisation d'expériences, d'activités sociales, culturelles et sportives. Grâce à ces personnes, l'école devient un milieu de vie stimulant et vivant. Ceci est un message du Syndicat du personnel technique et administratif du CSSRS et de la Fédération du personnel de soutien scolaire affilié à la CSQ.
Moitié-moitié!
Saviez-vous que vous pouvez participer au tirage du moitié-moitié? Et ce,
peu importe où vous vous trouvez au Québec.
Pour tenter de remporter le gros lot, procurez-vous vos billets au hockeyphoenix.ca et supportez du même coup le fonds d'études du Phoenix de Sherbrooke.
Prêtez l'oreille à notre émission Diapason. Depuis de nombreuses années, je vous propose les dimanches matins en musique classique. Désormais, de 9h à midi, venez vous reposer en appréciant les grandes œuvres des grands compositeurs.